Cours de critique par le père Philippe à Saint-Joseph le 10 juin 1987.
Ça, c'est une question critique, c'est évident. Et c'est une question très importante. Mais alors, n'oublions pas que c'est un théologien qui dit ça. Donc, jugement de sagesse. C'est dans un jugement de sagesse. Et c'est tout le problème de la personne. Une fois de plus. Oui. La connaissance naturelle de chaque créature. Il s'agit de la connaissance des anges, de la connaissance des hommes, et la connaissance aussi de ceux qui n'ont pas l'esprit, puisqu'il y a une connaissance au niveau de l'animal, et conforme au mode de sa substance. Alors, c'est pas la substance comme principe, c'est la substance comme suppos et comme personne. La substance comme principe, ça n'a aucun sens, puisque d'abord on ne peut pas parler du mode de sa substance. Je ne peux parler du mode de sa substance qu'au niveau proprement. Substance en tant qu'elle subsiste, en tant qu'elle existe. Donc la substance pensante Descartes. Vous trouvez la substance pensante. C'est-à-dire la substance qui subsiste et qui est une personne. Alors à ce moment-là, vous comprenez que la connaissance naturelle de chaque créature est conforme, c'est-à-dire elle est selon la manière d'exister de la substance. Operatio sequitur esse. Ça rejoint le operatio sequitur esse. Esse, c'est le suppos qui seul existe, c'est la personne qui seule existe. Operatio sequitur esse. Donc, la manière de penser. La manière de penser se fonde sur la manière, sur la personne, ou sur, puisqu'il s'agit de la personne au point de vue spirituel, ou tout simplement la manière d'exister de chaque réalité. Alors vous retrouvez le mode des deux côtés. Autrement dit, la connaissance, opération vitale, se fonde sur une réalité et la modalité de la connaissance repose sur la manière dont on subsiste. Operatio sequitur esse. C'est pas plus que ça. Après, il faut préciser. Alors, précisons pour l'homme, puisque c'est ça qui nous intéresse au point de vue critique. Mais vous voyez, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce sont des principes de sagesse. C'est une vision de sagesse. Et de sagesse théologique. Si je prends ce principe-là comme un principe de recherche, ça ne signifie rien du tout. C'est comme la fameuse distinction de liste entre l'essence et l'existence. C'est une conclusion de sagesse. Ça, c'est une conclusion de sagesse. Comme conclusion de sagesse, c'est très juste. D'un grande vision de sagesse. Si spirituelle qu'elle est reliée d'une certaine manière aux sensibles. exercice, oui. Selon la causalité spécifique, non. Oui, c'est l'expression, quand j'ai dit se lier, c'est l'expression latine c'est abet. Le c'est abet, vous traduisez ça comme vous voulez, c'est lié. Le c'est abet exprime causalité efficiente, causalité formelle. Alors par le fait même, je ne peux jamais connaître un principe. celle de saint Thomas? Pas du tout. Le jugement d'existence, ceci est, permet l'analyse directe de la causalité formelle, de la causalité efficiente et de la causalité matérielle. La causalité formelle ne naît pas de la causalité efficiente. Tandis que dans la phénoménologie, la causalité formelle naît. La naissance de la causalité formelle se fait à partir de l'efficience. Oui, je crois que ça, c'est très important. C'est très, très important de comprendre cela. Si on ne comprend pas ça, on ne voit pas ce qu'est la pensée phénoménologique dans notre monde d'aujourd'hui. Et ça, ça me semble capital. S'il y a des points là-dessus que vous ne voyez pas, notez-les, essayez. Je sais bien que c'est très difficile de poser une question quand on est dans le tunnel. Il faut sortir du tunnel pour poser une question. Mais au moins, sentez qu'il y a là un petit problème important. Et de saisir que la pensée de Husserl naît des mathématiques. Ça, tout le monde peut le comprendre. Parce que c'est une affirmation historique. Donc tout le monde peut comprendre ça. Et une fois qu'on comprend ça, toute la phénoménologie est éclairée. Moi, ça m'a beaucoup éclairé, ça. J'avais pas fait assez attention à ça. Parce que philosophiquement, on ne fait pas assez attention à ça. Alors de voir un matheux qui s'intéresse à Husserl, je me dis, mais comment ? C'est très intéressant parce qu'il met en pleine lumière le fondement de toute la phénoménologie.
Oui. Est-ce que dans l'art aussi, la cause formelle naît à partir de la cause efficiente?
Oui, mais chez l'artiste, c'est légitime. C'est l'inspiration. Mais chez le matheux aussi, c'est légitime. Ce qui n'est pas légitime, c'est au point de vue philosophique. C'est le méta-mathématique, c'est le méta-esthétique. Le méta-esthétique vous donne Hegel, le méta-mathématique vous donne Husserl. Alors je comprends très bien la réaction violente de Heidegger en face de ça. C'est de séparer l'être de l'étant. Oui, c'est juste la position inverse. L'être spécifie la connaissance. Dans la phénoménologie, l'être apparaît à partir de l'efficience, donc à partir du devenir. Réaction violente de Heidegger, dire l'être n'apparaît que dans la négation du devenir. Mettez les deux positions extrêmes, si vous voulez. Celle de Husserl et celle de Heidegger, qui sont deux positions extrêmes. Alors vous prenez celle de Husserl en disant à partir de l'exercice. L'exercice, c'est le devenir. Un devenir qui est peut-être purement d'intérieur, l'abstraction. L'abstraction, c'est un devenir. C'est l'intelligence qui est en mouvement. Donc elle est en devenir. À partir du devenir, apparaît l'être. Donc, la spécification. Primo cadit in intellectus ens. L'intelligence est spécifiée par l'être. Donc, à partir du devenir, l'être apparaît. Voilà toute la phénoménologie. Et ceci dépend d'une pensée mathématique. L'être mathématique apparaît à partir de l'abstraction. Ça, c'est évident. L'être mathématique ne peut apparaître que dans une abstraction. L'être mathématique ne peut pas se séparer de l'abstraction. Il apparaît dans l'abstraction. Réaction violente. Donc, l'être est dépendant dans sa détermination du devenir. Réaction violente de Heidegger. Le devenir n'a rien à faire avec l'être. Le devenir, c'est les étangs. Pour que l'être apparaisse. Oui. soit une, comme Jésus est le Père. Ah oui, alors là, on est en théologie. Je m'excuse, je n'entrerai pas dedans. Même si c'est très important, c'est évident pour nous, c'est le « je suis » du Christ. Mais vous voyez bien, c'est ça qui est intéressant à voir, c'est que c'est par le problème de la personne implique ça c'est si important. Une fois qu'on a saisi la structure de l'affirmation et de la négation, on ne peut plus tomber dans la dialectique hegelienne. Mais c'est difficile à saisir. Dans une position réaliste, il y a le primat du jugement d'existence. C'est-à-dire on y revient tout le temps, tout le temps. Et le jugement d'existence, c'est l'intelligence qui se mesure au réel. Ceci est. Et c'est première. Le progrès, c'est-à-dire le développement de l'intelligence, se fera donc à partir de cet affrontement constant au réel. Ceci est. Mais parce que mon intelligence n'est pas intuitive et qu'elle implique l'abstraction. Oui, jugement d'existence, abstraction. Voilà les deux pièces dominantes. Et l'abstraction, c'est l'appréhension. Parce que mon jugement d'existence implique, intègre l'abstraction dans l'appréhension. Il y a place pour la négation. Non seulement il y a place, mais il y a nécessité de la négation. C'est pas facultatif. Si une intelligence humaine ayant horreur de la négation, ça arrive de temps en temps. Des gens très très généreux, avec une générosité folle, qui fourrent leur générosité dans leur intelligence, ça existe, ne veulent jamais nier, en disant « moi je ne nie jamais, j'avale tout ». Oui, c'est le bois, les petits lapins vivants. J'avale tout. En avalant tout, puisqu'il n'y a pas de place pour l'abstraction, il s'étouffe. Et l'intelligence humaine ne peut pas progresser. Alors je suis d'accord avec Hegel que la négation est une condition sine qua non pour avancer. Et on fait de la condition sine qua non une détermination. Et le tour est joué. C'est là la distinction entre la position réaliste et la position hegelienne. Avec Hegel, on est d'accord que la négation est une condition sine qua non pour progresser. Autrement, j'étouffe. Voyez bien, faites des analogies avec celui qui, de fait, assimile sans rien rejeter les produits nocifs. Ça existe, hein, ce genre de maladie. Alors à ce moment-là, l'être humain ne peut plus vivre et croître. Il est intoxiqué de l'intérieur. Parce qu'il n'y a pas ce procédé d'abstraction qui laisse la place, du fait même qu'il y a abstraction, à la négation. On rejette ce qui n'est pas assimilable. Qu'est-ce qui n'est pas assimilable? C'est ce qui n'existe pas. C'est l'imaginaire. L'imaginaire, il va pénétrer. Il va pénétrer dès qu'il n'y a pas le rejet de ce qui n'est pas assimilable. L'abstraction permet d'assimiler ce qui est le bien d'intelligence. Et le bien d'intelligence est donné d'abord quantitativement. Ça, c'est le bien d'intelligence qui est donné quantitativement. L'intelligence saisissant ce qui est son bien d'une façon quantitative voit tout de suite que l'acuité n'est pas faut connaître la réalité. Et en définitive, la réalité humaine, l'homme, la personne humaine. Connaître la nature de l'homme, c'est très bien. Mais ce n'est pas la nature de l'homme, l'humanité, qui me fait connaître ce qu'est l'homme en tant qu'il existe, en tant qu'il est. Et donc, à partir de la distinction entre ce qui est connu et la réalité, pour bien montrer cette distinction, il faut la négation. Pour montrer jusqu'où va cette distinction, il faut la négation. Et donc la négation est une condition sine qua non pour le progrès de la vie intellectuelle. C'est très curieux. Et la négation apparaît à cause de l'abstraction. Si j'avais une intelligence intuitive, je n'aurais pas besoin de nier. Mais parce que je n'ai pas une intelligence intuitive et que j'ai une intelligence abstractive, autrement dit, parce qu'il y a une distinction entre appréhension et jugement, la négation apparaît. Je crois que c'est là où elle apparaît. Il me semble bien. Cherchez. Je crois que c'est là où elle apparaît. C'est parce qu'il y a une distinction entre appréhension et jugement. Il faut donc distinguer les deux. Et les distinguer radicalement en niant l'appréhension n'est pas le jugement. Et le jugement n'est pas l'appréhension. Vous voyez donc que la négation apparaît lorsque je compare ce qui est connu et le réel. Et en ce sens-là, la négation va être condition sine qua non du progrès. Si maintenant je fais de la négation non plus la condition sine qua non du progrès, mais la détermination du progrès, c'est la négation qui me permet de progresser. Non seulement qui me permet, mais qui détermine le progrès. La guerre est le père de toute chose. Parole d'Héraclite, citée par Hegel. La guerre est le père de toute chose. Il n'y a pas de guerre, c'est pour ça qu'on ne progresse pas. Il n'y a pas de guerre, c'est pour ça que les gens sont dans l'angoisse. Il n'y a pas de guerre, ça explique tout. Ça explique la crise économique, ça explique tout. Faisons une guerre, la crise économique n'existera plus. La guerre, c'est la négation. Dans l'ordre pratique, la guerre est le père de toute chose. Ça, c'est au cœur de la philosophie hegelienne. Au cœur de la philosophie hegelienne, c'est la négation qui détermine. Je ne dis pas qui conditionne, mais qui détermine. Là, la détermination ne vient plus du réel, mais de ma manière de connaître. Et donc, je m'enferme dans l'immanence. Alors, je vous le montre tout de suite, hein. Vous allez tout de suite comprendre qu'est-ce qui est au point de départ de toute la dialectique hegelienne. C'est l'affirmation. Et en réalité, il faudrait mettre la négation avant et l'affirmation après. Et de l'affirmation et de la négation naît la synthèse. Non-être. Donc qu'est-ce que c'est que le devenir? Qu'est-ce que c'est que le mouvement? la synthèse des deux. Et donc, la négation détermine la synthèse. Je crois que ça, tout le monde peut le comprendre. Alors, vous voyez que c'est très glorieux. C'est ça qui m'intéresse au point de vue critique. C'est que ce qui est condition sine qua non du progrès devient la détermination du progrès.
Notre
nécessaire dans la vie. Mais c'est la différence avec le point de vue affectif. Je ne dirais pas que du côté affectif, la haine est nécessaire. Non. Je ne dirais pas ça. Je dirais que la haine est nécessaire au niveau du devenir passionnel. La haine est une passion. Psychologiquement parlant, si je reste dans l'ordre passionnel, je dirais que la haine est nécessaire.